Merci à tous pour votre présence. Moi, je commence évidemment par remercier la librairie Mola pour son accueil. Je suis tout à fait ravi d'être dans cette salle et puis je suis ravi d'être pour une fois de ce côté-là du micro. Pour moi, c'est un plaisir, évidemment. Donc, je présente cet ouvrage, Le Nouvel Âge de la Citoyenneté Mondiale. J'ai réfléchi à la manière dont il était peut-être le plus intéressant de commencer cette présentation. J'ai réfléchi aux différentes portes d'entrée possibles. Je crois que le mieux, c'est peut-être de partir du titre. Le titre est très descriptif, Le Nouvel Âge de la Citoyenneté Mondiale. À mon avis, c'est une porte d'entrée qui fonctionne, qui est efficace pour rendre compte du cœur du propos de ces pages-là. Alors, dire qu'il y a un nouvel âge de la citoyenneté mondiale, ça suppose deux choses, à mon sens, très simples. Ça suppose d'une part qu'il y a un âge classique de la citoyenneté mondiale, et ça, il faut l'évoquer rapidement. Et puis, ça suppose aussi qu'il y a une rupture à notre époque concernant cet usage, l'emploi classique qu'on fait de cette notion de citoyenneté mondiale. Ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'on utilise aujourd'hui la citoyenneté mondiale, la notion de citoyenneté mondiale, l'idée de cosmopolitisme, comme on l'a toujours utilisée? Et si je veux être plus précis, je dirais que la question, c'est qu'est-ce qui change à notre époque? Et s'il y a un changement, s'il y a effectivement un changement, et il n'y a aucun suspense quant à ma thèse, puisqu'il y a un changement pour moi, eh bien, s'il y a effectivement un changement, je me demanderai quelle est son origine, quelle est sa nature et quelle est sa portée. Voilà. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps en 40 minutes de traiter de tout ça, hein, l'origine, la nature et la portée du changement, mais je voudrais en dire l'essentiel. L'essentiel, ma réponse à cette question-là, si je dois dire les choses de la manière la plus générale possible, ma réponse consiste à dire qu'il y a un changement à l'époque contemporaine, et que ce changement, d'une part, implique une redéfinition du concept de cosmopolitisme, de la notion de cosmopolitisme, ça ne signifie plus la même chose que ce que cela signifiait auparavant, et d'autre part, ça pose un certain nombre de problèmes nouveaux. Alors, j'ai commencé par dire que parler d'un nouvel âge de la citoyenneté mondiale, ça se faisait par distinction avec un usage classique, donc je veux dire un mot de cet usage classique de la notion, et si je dis qu'il y a un usage classique, c'est que cette idée de citoyenneté mondiale, c'est en fait une idée qui est très ancienne, qui est, pour ainsi dire, aussi ancienne que la philosophie. Et je crois que c'est très essentiel de comprendre ce que c'est que cet usage classique, ne serait-ce que pour saisir ce que l'âge actuel, ce que la période contemporaine change. Donc ma première question, c'est de savoir d'où vient cette idée-là, hein, et de quoi on veut parler habituellement quand on parle de citoyenneté mondiale. Je commence donc par un petit point historique, si vous voulez. Les premières occurrences de la notion se trouve dans deux écoles d'origine grecque, c'est assez connu, le cynisme d'une part et le stoïcisme d'autre part. Alors, je ne vais pas entrer trop dans le détail du propos de chacune de ces écoles, mais je vais expliquer rapidement que ces deux écoles, si elles ont l'air de dire des choses assez différentes quant à la notion de citoyenneté mondiale, j'en dis un mot tout de suite, malgré tout, elles se retrouvent sur un sens global de la notion, sur une façon commune de parler du cosmopolitisme. C'est-à-dire, cette façon commune de considérer la citoyenneté mondiale, elle est importante à pointer dès le début parce que c'est elle qui, à mon sens, est remise en cause à l'époque contemporaine. Alors, que disent les cyniques d'abord? Les cyniques, c'est, vous savez, cette école de philosophie du 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ qui propose, pour le dire rapidement, qui propose une remise en cause très profonde, très fondamentale de toutes nos conventions sociales, de toutes nos conventions juridiques, on pourrait dire de toutes les normes instituées. Voilà. Et souvent, on fait référence à une figure centrale quand on veut parler du cynisme, parce qu'on considère que c'est le premier cynique, on fait habituellement référence à la figure de Diogène, qu'on connaît parfois parce que, bon, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est intéressant pour nous à propos de Diogène, c'est que, eh bien, on rapporte toujours plein d'anecdotes à son propos qui sont nombreuses d'abord, mais qui sont surtout très étranges pour certaines, enfin qui au moins interrogent notre pratique des normes, peu importe. Eh bien, à propos de Diogène, il y a une anecdote qui est pour nous plus essentielle. C'est une anecdote qui concerne directement le cosmopolitisme. C'est une des premières occurrences du cosmopolitisme. On raconte que, alors c'est une formule extrêmement célèbre, on raconte qu'on lui demande d'où il est et lui répond « Je suis citoyen du monde ». Voilà. Alors bon, ça peut avoir l'air d'être anecdotique, et puis on pourrait interroger évidemment la véracité historique de ce propos, est-ce qu'il l'a vraiment dit ? Ça importe assez peu. Ce qui compte, c'est plutôt ce qu'il veut dire quand il dit cela, lui. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « je suis citoyen du monde » ? Ce qu'il veut dire, c'est ça qui nous intéresse, ce qu'il veut dire, c'est « je ne suis pas citoyen d'ici ». Je ne suis pas citoyen de cette cité particulière. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne se sent pas soumis aux lois du corps politique au sein duquel il se trouve. En disant « je suis citoyen du monde », lui, pour lui, hein, ce qu'il affirme, c'est avant tout qu'il n'est pas citoyen d'une cité particulière. Ou, en tout cas, hein, bon, c'est plus exact de le dire comme ça, il ne se sent pas citoyen d'une cité particulière. Alors, j'insiste là-dessus parce que « citoyenneté mondiale », dans cette acception, ça signifie refus de la citoyenneté. Voilà. Comme s'il y avait concurrence entre la citoyenneté mondiale, je suis citoyen du monde, et la citoyenneté réelle, hein, je suis citoyen du monde, voulant dire je ne suis pas citoyen d'ici. Comme si donc la citoyenneté mondiale, c'était une forme d'antipolitisme. Et cela, déjà, ça soulève une question tout à fait centrale dans l'histoire du cosmopolitisme. Elle va traverser l'histoire du cosmopolitisme. On la trouve chez un philosophe comme Rousseau. On la trouve même chez une philosophe actuelle, Martha Nussbaum, par exemple. C'est cette question, c'est la question de l'articulation de ces deux références, si vous voulez. La référence d'un côté au cosmopolitisme, je me sens citoyen du monde, et la référence aux appartenances locales. Est-ce qu'on peut articuler ces deux références-là ? Voilà. En d'autres termes, est-ce qu'on peut être citoyen du monde et citoyen d'un pays en même temps, par exemple, pour nous, si on veut l'actualiser, hein. C'est une question que je me contente de poser pour l'instant. Voilà, ça c'est la dimension cynique, si vous voulez, hein. C'est la compréhension cynique de la notion. Puis il y a donc une autre veine, si vous voulez, une autre ligne historique, c'est la ligne stoïcienne. Et chez eux, la référence au cosmopolitisme, elle a d'abord l'air d'être très différente. Et je commence par insister sur les différences. La citoyenneté mondiale, pour le sage stoïcien, ça désigne littéralement l'inscription dans le cosmos. L'inscription dans le cosmos, il faut le dire le plus clairement possible. Et le cosmos, ça veut pas dire le monde ou la planète, nous, ce qu'on appellerait le monde, la planète ou la Terre. Ce n'est pas du tout ça, le cosmos, pour les stoïciens. Le cosmos, c'est un ensemble supérieur, ordonné, réglé par la raison, commun aux sages et aux dieux. Voilà. Et c'est cela, le cosmos. C'est-à-dire, c'est un tout ordonné, et dont le sage saisit l'ordre. Voilà. Bon, je vais à l'essentiel, hein. Ce qui est important de comprendre dans cette acception-là, c'est que cet ordre supérieur, ce cosmos, donc, c'est, pour le sage, la vraie cité. C'est la cité réelle. La cité réelle, c'est le cosmos. Les cités particulières, nos petites cités dans lesquelles nous, on vit, ce sont des accidents au regard de cette grande cité. On est là par hasard. Ce qui compte, c'est l'inscription dans le cosmos. Pour le sage stoïcien, ça, cette différence entre la cité réelle et la cité particulière, entre la grande cité et la petite cité, entre le cosmos et nos cités, ça, pour le sage stoïcien, donc, ça ne signifie pas du tout qu'il faille, comme chez les cyniques, ou en tout cas tel que je l'ai présenté chez les cyniques, ça ne signifie pas du tout qu'il faille se désengager de nos cités particulières. Il n'y a pas littéralement concurrence entre nos deux citoyennetés. C'est plutôt le contraire. La citoyenneté mondiale, elle exige, pour le sage, autant qu'il lui est possible de le faire, d'agir. Elle exige que le sage agisse dans la cité. Voilà. Et qu'il agisse en fonction de son appartenance au cosmos, à la cité, pardon, réelle, à la grande cité. Ça signifie, par exemple, qu'il doit fonder ses délibérations politiques, s'il prend part à la vie politique, non pas sur l'appartenance à la cité particulière, mais sur la raison, par exemple, qui est le principe ordonnateur du cosmos. Ici, donc, il n'y a pas de trace d'un antipolitisme, comme on avait cru le voir chez les cyniques. Alors pourquoi ce passage par cynisme et stoïcisme, très rapidement ? D'abord, ces deux acceptions, elles ont l'air d'être très différentes, évidemment. Et en quoi donc elles pourraient m'être utiles pour dégager quelque chose comme un sens classique que la période contemporaine viendrait bousculer ? Eh bien, c'est que dans les deux cas, c'est une réalité d'ailleurs qui sera constante jusqu'au retour tardif de la notion, 17e, 18e, hein, dans les deux cas, la citoyenneté mondiale ne désigne pas réellement une citoyenneté. Dans les deux cas. Voilà le cœur de ce qui m'intéresse, et voilà ce que la période contemporaine fait évoluer selon moi. C'est là où c'est ce qui nous permet de dire qu'on est dans un nouvel âge de la citoyenneté mondiale. L'usage habituel, l'usage classique de la notion, c'est donc ce que j'appelle un usage métaphorique. Métaphorique. Dans cette acception métaphorique, qui se met donc en place dès les premières occurrences que je viens d'évoquer rapidement, dans cette acception métaphorique, la citoyenneté mondiale désigne une sorte de représentation de soi au sein du monde, ou au sein de l'humanité tout entière. Et donc on peut dire que, ça désigne seulement ça, hein, donc on peut dire que la citoyenneté dont il est question dans l'idée de citoyenneté mondiale, ce n'est pas réellement une citoyenneté. Je veux dire qu'elle n'est pas une citoyenneté au sens juridico-politique traditionnel de la citoyenneté, un ensemble de droits, de devoirs, d'obligations, etc. Voilà. Même aujourd'hui, d'ailleurs, ce sens-là perdure dans le langage ordinaire. Celui qui se dirait aujourd'hui, on pourrait en entendre, quoi, hein, celui qui se dirait aujourd'hui citoyen du monde, il évoque une disposition intérieure, on pourrait dire, hein, qui est d'ailleurs très vague. On ne sait pas trop ce que ça désigne, se dire citoyen du monde. On pourrait la caractériser par, je ne sais pas, quelque chose comme une ouverture d'esprit ou une curiosité culturelle, quelque chose de très vague. Ça pourrait même être un certain usage du monde, hein, un certain rapport au voyage. Ça permettrait peut-être aux voyageurs de dire « je suis citoyen du monde ». Voilà. Bien souvent d'ailleurs, ce qui se cache derrière cette référence ordinaire à la citoyenneté mondiale, c'est peut-être une incapacité à se reconnaître comme membre d'une communauté politique particulière. C'est peut-être ça, en fait, ce qui se cache derrière cette référence-là. Voilà ce que ça désigne habituellement, en tout cas. Dans ces cas-là, dans l'usage ordinaire comme dans l'usage philosophique, la citoyenneté mondiale, finalement, n'a de citoyenneté que le nom. On parle donc de citoyenneté mondiale, en fait, par abus de langage. C'est plutôt d'une vision de soi qu'il s'agit, plutôt que d'une citoyenneté réelle. Une vision de soi qu'on appelle citoyenneté parce que le terme est pratique, parce qu'il désigne une appartenance. En fait, ce qui caractérise habituellement la citoyenneté mondiale, si je veux le clarifier, c'est en réalité trois éléments fondamentaux dans cet usage-là, trois éléments. Le premier, c'est donc quand on se dit citoyen du monde, qu'est-ce qu'on veut dire ? D'abord, la première caractéristique, c'est que c'est une citoyenneté qui est, enfin, une citoyenneté entre guillemets, une citoyenneté qui est volontaire. Volontaire, c'est la première caractéristique. Ça veut dire que je peux ne pas la partager. Voilà, c'est volontaire, ça dépend. Voilà. Deuxième caractéristique, elle est individuelle. C'est-à-dire que c'est toujours tel individu qui choisit ou non de se dire cosmopolite. Ça n'engage pas les autres du tout. Et la troisième caractéristique, c'est qu'elle est éthique, volontaire, individuelle et éthique. Éthique parce que les liens, les engagements qui se fondent sur cette idée de citoyenneté mondiale sont des liens et des engagements non contraignants. Et donc, à proprement parler, eh bien, ces trois éléments-là, volontaire, individuel et éthique, ces trois éléments fondamentaux qui caractérisent le sens classique de la notion, notre usage classique de la notion, montrent, à mon sens, que la citoyenneté mondiale doit être comprise comme une non-citoyenneté, littéralement. Alors, on répondra que c'est normal, dans la mesure où le monde n'est pas constitué politiquement. Donc, on ne peut pas avoir autre chose que cette forme-là de la citoyenneté, qu'une forme métaphorique. On ne peut pas être citoyen au sens strict, évidemment. Eh bien, ma thèse, c'est que c'est justement cela que la période contemporaine fait changer. Voilà. Dans cet ouvrage, je cherche donc à montrer que la citoyenneté mondiale gagne, à notre époque, un sens juridico-politique, pour la première fois. Voilà. Une effectivité politique inédite, c'est ça l'idée. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut montrer en même temps que ce nouveau sens de la citoyenneté mondiale ne laisse pas indemne la notion de cosmopolitisme elle-même. Et que quand elle gagne une épaisseur juridique, la notion de citoyenneté mondiale, elle perd en partie sa dimension métaphysique, la densité métaphysique qu'elle avait auparavant. Hein, comme si en gagnant l'un, elle perdait l'autre, quoi. Alors d'où vient ce changement? Qu'est-ce qui justifie qu'on puisse parler d'un nouvel âge de la citoyenneté mondiale? Qu'est-ce qui fait que la citoyenneté mondiale soit aujourd'hui susceptible d'être pensée sur le mode politique alors que c'était inenvisageable hier? D'où vient qu'on ait pu gagner cette nouvelle réalité politique? Bon, pour répondre à cette question de l'origine du changement, je propose trois arguments principaux, je vais en rendre compte très vite, c'est l'objet de mes deux premiers chapitres. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler un développement de la conscience cosmopolitique. La conscience cosmopolitique, c'est-à-dire, pour des raisons précises que j'essaye d'analyser, je crois qu'on peut caractériser la période contemporaine, notre période, comme étant celle d'une démocratisation du sentiment cosmopolitique. Une banalisation du sentiment cosmopolitique. Je ne dis pas que ce sentiment-là est partagé par tous, je ne dis pas qu'il est partagé partout de la même façon, je ne dis pas qu'il est stable, qu'il est permanent dans le temps, et je ne prétends pas non plus qu'il permette de fonder des attentes politiques démesurées, je dis simplement qu'il y a un processus historique de cosmopolitisation des consciences. La formule est peut-être un peu trop importante, cosmopolitisation des consciences, je veux le dire très clairement, on se sent de plus en plus citoyen du monde, c'est tout. C'est d'ailleurs pas du tout évident que ce processus-là ne corresponde pas à ce qu'on pourrait appeler, là encore, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est pas du tout dit que ça ne corresponde pas à un affadissement de l'idéal cosmopolitique. On ne va pas rêver, tout le monde n'est pas en train de devenir un sage stoïcien. Et donc si tout le monde se dit de plus en plus facilement citoyen du monde, qu'est-ce que ça veut dire en réalité, hein? Est-ce que dans cette démocratisation du sentiment cosmopolitique, on ne perd pas quelque chose? Et est-ce qu'on n'y perd pas même certains aspects essentiels du cosmopolitisme? Ça serait évidemment tout à fait à discuter. Il demeure que sur notre planète finie, c'est l'argument de Kant par excellence, eh bien, les interconnexions se développent de plus en plus et aboutissent à ce processus de cosmopolitisation des consciences. Ce n'est d'ailleurs pas un processus univoque, il y a des résistances nombreuses à cette démocratisation du cosmopolitisme. Voilà, premier argument donc, sur l'origine de ce changement, c'est quelque chose comme une modification des consciences, hein, une démocratisation de cet usage du sentiment cosmopolitique. Le deuxième argument, à mon sens, est beaucoup plus décisif pour des raisons propres à cette analyse, mais il est plus important parce qu'il porte davantage de motifs de changement, et notamment de changement politique. Deuxième argument, c'est l'argument selon lequel les États perdent progressivement leur autonomie sur plusieurs plans. Voilà, il y a une perte de l'autonomie des États. D'abord sur le plan économique. Évidemment, c'est très courant de le remarquer, les États ne décident plus seuls des orientations économiques, ou au moins, chaque État est hautement concerné par le choix des autres. Deuxièmement, le plan politique. Les États sont pris dans des réseaux d'obligations réciproques, dans des réseaux d'organisations internationales au sein desquels ils ne décident plus seuls de ce qu'ils font. Voilà. Plan économique, plan politique, et puis il y a le plan juridique aussi, probablement. Enfin, c'est pas probablement. Les États se sont progressivement dotés d'un droit international qui, bien qu'il soit doté d'un bien faible pouvoir de contrainte, existe et commence à avoir des effets. Tout ça, ça correspond, en somme, à une remise en cause de la vision de l'État comme une boule de billard. C'est une vision de l'État qu'on a pu avoir, une boule de billard, c'est-à-dire des entités qui s'entrechoquent sans communiquer. C'est une image de Wolfers qui utilise cette image de la boule de billard pour parler de l'idée du statocentrisme, l'idée que l'État est le seul acteur et qu'il est au centre de tout et qu'il est autonome. Pour le dire vite, ça ne signifie pas que les États ne décident plus rien, évidemment. Ça ne signifie pas non plus que toute trace de souveraineté a disparu, c'est même, à mon avis, plutôt le contraire. C'est simplement que les pratiques économiques, politiques, juridiques aboutissent à une remise en cause très essentielle, très fondamentale, on pourrait dire, de la vision classique des États. Ce processus-là, il peut être vu comme un processus de cosmopolitisation de la pratique du pouvoir politique, qui n'est plus aujourd'hui seulement entre les mains des États autonomes. Et si, pour le premier argument, je parlais d'une cosmopolitisation des consciences, c'est-à-dire en fait une cosmopolitisation subjective, hein, l'impression de pouvoir se dire plus facilement un citoyen du monde, ici, il s'agit en quelque sorte d'une cosmopolitisation objective. C'est-à-dire, c'est l'état même des relations entre les États qui peut être considéré comme relevant de ce processus. Puis un troisième et dernier argument que je développe dans l'ouvrage, on pourrait en évoquer d'autres d'ailleurs, on pourrait évoquer par exemple un argument que développe un philosophe actuel qui s'appelle Thomas Pogge, qui parle, lui qui fonde toute sa réflexion sur le renouvellement des institutions mondiales, sur l'analyse de la pauvreté. Il dit le principal défi pour les institutions mondiales, c'est la pauvreté mondiale qui devient moralement insupportable, si vous voulez. Bon, mais mon troisième argument que je développe, c'est celui qu'on pourrait appeler l'argument des risques globaux qui sont partagés par l'ensemble des habitants de la planète et qui a tendance à aboutir à une situation dans laquelle nous sommes tous littéralement mis à niveau. Alors, dans le détail, on n'est peut-être pas tous à égalité devant chaque risque, mais il y a des risques qui nous mettent un peu à niveau. C'est un autre aspect de ce que j'appelais la cosmopolitisation objective. Ça revient à dire qui a une situation de risque partagée par tous. Risque sanitaire, économique, écologique, etc. Et cette situation-là exige que soit imaginée une nouvelle échelle politique, l'échelle cosmopolitique, pour répondre à ces risques. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que, il y a des exemples très, très classiques qu'on prend, ça signifie que je suis concerné par le problème de la déforestation, par exemple, non pas en tant que je suis citoyen français, ça ne me concerne pas comme citoyen français, mais en tant que je suis habitant de la planète. Ma citoyenneté nationale peut même avoir des intérêts contradictoires vis-à-vis de mes intérêts cosmopolitiques. Et un autre exemple pratique et assez classique, ça revient à dire que, en tant que citoyen français, moi, je peux être intéressé par des lois qui faciliteraient la vente d'armes, par exemple. Tandis que, habité par une forme de schizophrénie cosmopolitique, eh bien, je peux aussi considérer, en tant que citoyen du monde, cette fois-ci, que de telles lois poseraient des problèmes. Voilà. Alors, ces différents risques globaux ne signifient pas que la citoyenneté nationale serait inefficace ou inutile, bien sûr, ce n'est pas du tout le propos, évidemment, il n'y a pas de péremption de cette citoyenneté nationale. Ça indique seulement qu'elle ne peut pas résoudre seule. En tout cas, c'est une des thèses que j'essaye de construire, que la citoyenneté nationale ne peut résoudre seule certains défis contemporains et qu'il faut donc imaginer une autre échelle. Alors, avant d'évoquer cette nouvelle échelle, simplement, on pourrait faire une observation après les deux derniers arguments, c'est-à-dire l'argument de la perte d'autonomie des États et l'argument des risques globaux. On pourrait observer quelque chose à propos du concept de cosmopolitisme lui-même. Et on pourrait dire que l'usage de la citoyenneté mondiale a changé déjà, mais qu'il a changé en un sens bien spécifique. On est dans un cosmopolitisme, de fait, mais on est dans un cosmopolitisme qui est réactif, quoi. Il est certes davantage partagé, mais il est contraint par l'état du monde. C'est-à-dire que c'est un cosmopolitisme subi, en quelque sorte. La cosmopolitisation, si un tel processus existe, c'est un processus subi. Et ça, au moins, on peut observer que c'est un grand changement. Et c'est pas sûr qu'on y gagne de ce point de vue-là, vis-à-vis du concept. C'est qu'on est bien loin de l'idéal positif classique auquel on aspirait pour lui-même. Ici, on le subit. On passe d'une représentation de soi qui est volontaire, en tant que citoyen du monde, hein, je me représente comme citoyen du monde, à la réalité cosmopolitique subie, à la réalité d'un processus de cosmopolitisation qui ne dépend pas de ma volonté. Ce qui change, bien sûr, la donne pour la notion de cosmopolitisme elle-même. Alors, une fois dit cela, une fois clarifié l'origine du changement que connaît la période contemporaine, je veux expliquer en quoi consiste le changement lui-même. La thèse que je défends dans le livre, c'est donc que la citoyenneté mondiale acquiert une réalité politique nouvelle, qu'elle se met à désigner autre chose qu'une simple représentation de soi dans le monde, qu'elle gagne, on pourrait dire, une épaisseur politique nouvelle. Comment se traduit cette nouvelle effectivité politique du concept de cosmopolitisme, de citoyenneté mondiale ? À mon avis, il faut distinguer deux biais pour rendre compte de cette effectivité-là, deux domaines, c'est en tout cas ce que j'essaye de faire, la voie que j'appelle non institutionnelle et la voie institutionnelle. J'explique rapidement de quoi il s'agit. La voie non institutionnelle, par laquelle l'idée de citoyenneté mondiale gagnerait une effectivité, c'est la voie de ce qu'on appelle souvent la société civile mondiale, c'est-à-dire cet étrange objet politique qui se développe très rapidement dans le XXe siècle, qui acquiert une autonomie de plus en plus conséquente à l'égard des États et qui permet à des citoyens un engagement réel politique au-delà des cadres nationaux. Alors je dis que c'est une voie non institutionnelle, je ne sais pas si le terme est pleinement satisfaisant, je veux juste dire que c'est au sens où son mode d'action politique, bien qu'il soit soumis à la logique des traités, au droit international, etc., n'est pas le fait des institutions internationales, c'est simplement ça, la société civile mondiale. Tout ça, évidemment, c'est pas très nouveau d'observer l'émergence d'une société civile mondiale. On dresse simplement ici un constat, le constat que l'action politique mondialisée est rendue plus aisément possible, simplement cela. Mais ce constat, il se trouve qu'il change le rapport possible au cosmopolitisme. S'il faut le dire rapidement, je dirais, comme la société civile mondiale désigne cet ensemble d'associations ou d'organisations qui agissent effectivement à l'échelle de la planète, comme elle désigne cela, la société civile mondiale, eh bien, elle offre, de fait, aux individus une voie d'accès à ce qu'on pourrait appeler un cosmopolitisme politique pratique. Qu'est-ce que ça veut dire, un cosmopolitisme politique pratique? Je ne sais pas si la formule est très heureuse. Ça veut dire que par ce biais, c'est très simple, je crois, la citoyenneté mondiale se traduit dans la réalité de l'action politique. Par le biais de certains mouvements mondiaux, on pourrait dire qu'on n'est pas seulement citoyen du monde au sens d'une représentation personnelle, mais au sens où on peut agir en tant que tel dans le monde. Voilà. Alors bien sûr, à chaque fois qu'on note une évolution, l'évolution en elle-même pose des questions, et je crois que cette évolution-là pose des problèmes tout à fait centraux à la pratique politique. On pourrait par exemple s'interroger sur la légitimité de la société civile mondiale. Sur quelles normes est-ce qu'elle fonde son action, par exemple. Je veux dire, le fait que cette action puisse être associée au cosmopolitisme, ça ne suffit pas à la justifier, évidemment. Et donc, il faut se demander à quelles conditions une action de la société civile mondiale est légitime, ou est illégitime d'ailleurs. À quel moment elle est légitime, ou sous quelles conditions elle peut l'être. De la même façon, on pourrait s'interroger sur le caractère souhaitable ou non souhaitable du développement de ce processus-là. On pourrait s'interroger sur les motivations réelles des acteurs de la société civile mondiale. Qu'est-ce qui pousse à un engagement politique au-delà de l'échelle nationale, à l'échelle de la planète ? Est-ce que c'est simplement le souci de la justice, par exemple ? Pas toujours le cas. Et si c'est le souci de la justice qui est affirmé, de quelle justice on parle ? Bon, ça, ce sont des questions bien réelles qu'on peut poser à la société civile mondiale. Mais au-delà des problèmes qu'elle pose, et pour rester bien concentré sur le sujet qui m'occupe dans cette présentation, eh bien, la société civile mondiale donne tout de même du corps, de la densité politique, à la notion de citoyenneté mondiale, qui n'est plus tout à fait donc un simple abus de langage, comme on le disait plus haut. C'est évidemment pas encore une citoyenneté au sens plein, dont il est question ici, ça revient simplement à dire que l'action politique à l'échelle de la planète se développe. Pour que la citoyenneté mondiale accède à un sens plein, eh bien, il faut nécessairement passer par la voie institutionnelle, c'est-à-dire par la voie des organisations internationales. Et dans cette voie-là, évidemment, les questions sont très nombreuses. À quoi ressemblerait une citoyenneté mondiale instituée? Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on en est loin? Et puis surtout, est-ce que c'est véritablement souhaitable? Voilà. Je ne vais pas traiter toutes ces questions-là dans le temps qui me reste, mais enfin, c'est évidemment là le cœur du propos. Aujourd'hui, ça relève de ce qu'on appelle le cosmopolitisme politique, ces questions-là. C'est évidemment sur ce point-là, le point institutionnel, que les critiques sont le plus nombreuses. Je veux simplement expliquer que donc, c'est ça, le cœur de ma thèse, et c'est ça l'ambition principale de l'ouvrage. Si je veux récapituler, je pourrais dire qu'il s'agit, pour moi, dans l'ouvrage, en l'occurrence dans les chapitres 4-5, d'essayer d'analyser ce qui peut être considéré comme relevant actuellement d'une citoyenneté mondiale véritable, dans la pratique actuelle des institutions, si vous voulez, internationales. Il s'agit ensuite d'essayer de justifier ce recours au cosmopolitisme à l'échelle mondiale, c'est-à-dire montrer ce en quoi il permettrait d'apporter une réponse aux défis que j'ai évoqués plus haut. Il s'agit encore de dégager quels sont les principaux problèmes posés par cette ambition, et puis enfin, d'analyser ce que cette révolution dans l'usage du concept de cosmopolitisme change pour le concept lui-même. Alors, évidemment, je passe sur les détails, mais ce travail-là suppose d'évoquer tout un arsenal de réformes et d'innovations institutionnelles dont certaines sont éminemment problématiques. J'en évoquerai quelques-unes plus bas, mais qui rendraient possible le fait qu'on parle d'une véritable citoyenneté mondiale. En fait, pour chacune de ces réformes, pour chacune de ces innovations que les penseurs de cette voie-là proposent, enfin, cet ouvrage s'inscrit bien dans la ligne d'une certaine école, ce qu'on appelle les penseurs de la démocratie cosmopolitique, bon, c'est des penseurs en langue anglaise la plupart du temps, eh bien, pour chacune de ces réformes, pour chacune de ces innovations, donc, il s'agit d'accorder une plus grande place à la participation des citoyens au sein de chacune des sphères de la gouvernance, et notamment à l'échelle mondiale. Favoriser la participation des citoyens au sein de chacune des sphères de gouvernance. Et c'est bien sûr ça qui justifie qu'on parle de cosmopolitisme. Alors qu'est-ce que serait une institution cosmopolitique, véritablement cosmopolitique? Les institutions cosmopolitiques sont tout simplement celles qui permettent l'expression réelle, politique, de la citoyenneté mondiale. À l'échelle mondiale, pour l'instant, les seules institutions politiques que l'on connaisse, ce sont des institutions intergouvernementales ou interétatiques. C'est-à-dire, au sein de ces institutions, qu'on hérite du modèle classique de l'État, c'est l'État qui est toujours le seul à intervenir et à décider. Plus de façon autonome, on l'a dit, mais c'est encore lui qui décide. Il y a une voix par État. Voilà. La proposition que j'essaye d'analyser dans l'ouvrage, elle revient à articuler deux types d'institutions à l'échelle mondiale. Et non pas une, enfin, on ne parle pas de l'articulation d'une seule institution, mais alors qu'on avait un seul type d'institution, on passerait à l'articulation de deux types d'institutions. D'une part, les institutions intergouvernementales, par exemple l'Assemblée générale de l'ONU, les organisations régionales comme l'Union européenne, l'Union africaine, bon, les organisations interétatiques qui ont des compétences dans un domaine très précis, le FMI, l'OMC, la Banque mondiale, tout ça. Donc d'une part, les institutions intergouvernementales que l'on connaît, et le projet c'est d'articuler cela à des institutions cosmopolitiques, d'autre part, qui seraient, elles, basées sur l'égalité non pas entre les États, mais entre les citoyens. Ça revient simplement, en même temps quand je tapais simplement, je me suis dit, bon, c'est pas si simple que ça en réalité, mais ça revient simplement, sur le plan politique, à distinguer les citoyens du monde des citoyens étatiques. Les institutions cosmopolitiques seraient donc celles qui prendraient la forme de structures permettant la participation des acteurs non étatiques. C'est ça le cœur. Hein. Les institutions cosmopolitiques permettent la participation des acteurs non étatiques, quelle que soit la manière dont on pense cette participation-là. Alors on peut, je vous donne quelques exemples, on peut évoquer notamment le développement des parlements régionaux qui est encouragé dans cette perspective-là. Mais il y a aussi des innovations comme les référendums supranationaux, le développement de forums démocratiques, ce qu'on appelle les forums, le recours aux experts, qui d'ailleurs en lui-même pose à nouveau des problèmes, évidemment. La création, c'est une proposition récente de Martin Scheinin, qui est rapporteur à l'ONU sur la promotion et la protection des droits de l'homme, une proposition d'institution, c'est, lui il dit, il faudrait une cour mondiale des droits de l'homme, comme il y a une cour européenne des droits de l'homme. On pourrait imaginer une cour mondiale des droits de l'homme. Voilà. L'amélioration d'autres pistes d'innovation, c'est l'amélioration de la représentation politique des acteurs de la société civile. Comment on pourrait donner une voix à certains acteurs de la société civile, leur donner politiquement. Et puis bien sûr, alors il y a un projet qui est le plus discuté, et puis celui auquel même parfois on résume cette perspective-là, à tort à mon avis, mais c'est probablement le plus discutable, mais c'est aussi le plus innovant, enfin, c'est le projet d'un Parlement mondial. Alors là, carrément, hein, donc là, ce qui est porté par Richard Falk notamment, ou Andrew Strauss, deux auteurs américains. C'est une vieille idée, en fait. Hein. C'est défendu depuis la fin du 19e siècle, une assemblée générale des peuples, etc. Bon, enfin, lui, il le réactualise et il propose ça. Chacune de ces propositions, évidemment, elle pose beaucoup de questions, de problèmes, même de questions techniques, de faisabilité, évidemment. Hein. Ça fait aucun doute. Mais à chaque fois, la volonté principale, c'est que cette structure de codécision entre deux types d'institutions soit un facteur qui permettent de contrebalancer la puissance des États et de traiter de certains problèmes qui touchent l'ensemble des habitants de la planète en tant qu'habitants de la planète et non pas seulement en tant qu'habitants citoyens de tel ou tel État particulier. C'est ce qu'on disait plus haut, hein, je suis concerné différemment par la vente d'armes ou par la déforestation en tant que citoyen du monde et en tant que citoyen d'un pays en particulier. On pourrait donc imaginer qu'il faille réfléchir à la manière dont le pouvoir politique pourrait prendre acte de cette différence entre le fait que je sois concerné par un problème en tant que, pardon pour la syntaxe, en tant que citoyen du monde ou en tant que citoyen d'un État. Voilà. Il n'y a pas d'espace politique, on pourrait imaginer les conditions sous lesquelles un espace politique serait possible. Voilà, alors je suis bien sûr allé très vite sur de nombreux points, j'ai cherché à rendre compte de quelques-unes des grandes idées de ce livre, j'ai peut-être du coup donné l'impression de passer un peu indûment d'une idée à l'autre, j'aurais peut-être pas justifié suffisamment les articulations, les arguments, mais comme je viens d'achever sur la dimension institutionnelle et sur les innovations supposées par ce nouvel âge de la citoyenneté mondiale, et comme j'ai toujours un peu peur de la manière dont ce type d'idées peuvent être entendues, ou plutôt j'ai l'expérience de la manière dont elles le sont, eh ben, je voudrais pour conclure terminer simplement sur la réponse à une critique très commune qu'on adresse à ce genre de théorie. Bien souvent, en fait, on objecte que c'est une théorie trop peu réaliste, quoi, ou trop naïve. Les seuls acteurs politiques seraient les États, qui n'accepteraient pas de laisser leurs prérogatives. Voilà un projet qui, en niant la réalité politique de l'exercice du pouvoir, serait condamné à rester à l'état de projet, si vous voulez. Et je veux répondre à ça rapidement, très rapidement. Outre le fait qu'on pourrait déjà discuter du fait de savoir si les États sont effectivement les seuls acteurs, et si même ils l'ont jamais été, je crois que cette critique qui se prétend réaliste, au sens où elle s'appuie sur ce qu'on appelle le réalisme en matière de relations internationales, manque en réalité de réalisme. Je veux dire par là que si cette façon politique de considérer le cosmopolitisme, celle que je viens de présenter rapidement, si cette façon politique de présenter le cosmopolitisme risque toujours sembler trop utopique ou trop naïve aux réalistes, on peut toujours répondre qu'il est sûrement plus naïf encore de croire que les choses peuvent continuer comme avant, que la réalité actuelle ne change rien. Voilà. ce que ce livre cherche à montrer, c'est que cette façon politique de comprendre le cosmopolitisme contemporain, malgré les évidentes questions qu'elle pose, malgré les problèmes qu'elle rencontre, peut présenter un horizon politique positif et, dans une certaine mesure, souhaitable pour notre époque. C'est donc quelque chose comme un réalisme cosmopolitique que j'essaye de construire et de défendre dans ce livre. Voilà, je vous remercie.